RFI.
Alors, on dit quoi ?
Hello, c'est Diara. Je suis ravie de vous retrouver dans notre émission Alors, on dit quoi ? L'arbre à palabres de la jeunesse africaine. Ici, le micro est à nous, nous les jeunes. C'est notre moment et on parle de tout sans tabou. Et pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, eh bien, je suis Diara Ndiaye. Ma mission, vous donner la parole chaque samedi sur RFI. Je suis une jeune journaliste et je me pose les mêmes questions que vous sur l'avenir, la vie de famille, les angoisses, la carrière, la santé, les galères. Vous l'aurez compris, je m'intéresse à notre quotidien. Et justement, cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Bilali Diko, qui gère un programme d'autonomisation des jeunes à Tombouctou, au Mali. Et en ce début janvier, nous serons également en compagnie de Joanne, qui nous expliquera comment planifier et réussir son année grâce à un outil, le Vision Board. Et ce n'est pas tout, je vous l'avais promis, on parlera donc du quotidien des étudiants étrangers en France. Les difficultés financières conduisent un bon nombre d'entre eux à exercer une activité rémunérée. Ils doivent en plus faire face à la hausse des frais d'inscription universitaire dès la rentrée 2019 et ceci ne sera pas sans conséquence.
Si je savais en amont que les 3770 euros allaient s'imposer, peut-être que j'aurais pas choisi la France.
Et ce n'est pas tout. On écoutera de la musique avec notamment la chanson Bayo du groupe sénégalais Gonéi. Nous entendrons le coup de gueule de Dou Nyangadou qui nous interpellera au sujet d'une grève de cheminots à Bamako. Et enfin, un décryptage avec Valdez d'une fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux. On vous expliquera que rien ne prouve que la consommation d'eau chaude guérit des maladies. Le programme est chargé. On démarre tout de suite en Gata.
Alors on dit quoi avec Diara Ndiaye?
Bonjour Mam Diara, ici Moustapha Thiam, président fondateur du mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, MSDA. Bah écoutez, c'est un grand plaisir de participer à cette émission, une émission qui rêvait un cachet particulier à l'endroit de toute la jeunesse africaine, à l'endroit vraiment de toute la diaspora entre africaine qui bouge. Donc là aujourd'hui, c'est un grand plaisir de donner mon point de vue, mes conseils les plus humbles à ma qualité du président de ce grand mouvement qui aujourd'hui regroupe plus de 25 pays africains et qui œuvre sur des problématiques de l'emploi et surtout de l'entrepreneuriat des jeunes d'ici et d'ailleurs. Si j'ai un message à passer à la jeunesse, c'est quoi? Il faut que la jeunesse soit consciente qu'elle est l'unique bâtisseur de l'avenir de notre continent. Parce que la jeunesse, pour moi, en fait, c'est une valeur. Elle est l'alpha et l'oméga du développement. Elle est le sacré secret de la croissance et de la compétitivité de toute économie. Une économie ne peut pas se développer sans pour autant passer par une base solide, par vraiment un dénominateur qui aujourd'hui est considéré comme étant la force de l'Afrique et sa jeunesse. Un message à faire passer à nos aînés, il faut qu'aussi nos aînés accompagnent aujourd'hui nous en tant que jeunes. Il y a pas mal de jeunes comme nous, nous avons pas mal de projets pour l'Afrique et son développement. Il faut que nos aînés acceptent d'aider les jeunes qui ont des belles initiatives. La solidarité, c'est une force parce que l'unité est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. Il faut comprendre bien sûr que on ne peut pas parler d'unité sans pour autant avoir une union des cœurs. Il faut qu'on s'aime. Il faut que aujourd'hui, Mam Diara, cette émission qui rayonne partout en Afrique, tout le monde soutienne, tout le monde donne son avis. C'est ça qui fera la force de l'Afrique.
Alors, on dit quoi? Diara Ndiaye.
La jeunesse est l'unique bâtisseur de l'Afrique, vous venez de l'entendre. Et il a raison, Moustapha, préparons-nous à prendre la relève et soyons unis. N'hésitez pas, faites comme Moustapha. Chaque samedi, envoyez-moi vos messages sur le compte WhatsApp de Alors on dit quoi. Présentez-vous avec votre nom et prénom, définissez-vous en trois mots-clés. Adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés. Et expliquez-nous votre vision d'une Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742. Alors on dit quoi ?
Chaque semaine, Alors on dit quoi ? Met aussi en lumière les initiatives que vous mettez en place en Afrique. Ce samedi, direction Tombouctou avec Bilali Diko. Bonjour Bilali.
Bonjour Diara.
Alors vous avez terminé vos études à l'étranger. Aujourd'hui, vous vivez au Mali et vous dirigez le programme exécutif de l'autonomisation des jeunes pour consolider la paix à Tombouctou, au Mali. Pourquoi avoir mis l'accent sur cette localité ?
Alors en fait, aujourd'hui, le Mali traverse une période l'une des plus difficiles de
son histoire à travers la crise sécuritaire. Donc en fait, on a remarqué en fait également que toutes les opportunités qu'il y a au Mali sont en partie concentrées dans la capitale. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider les jeunes qui sont issus des régions du Nord afin de pouvoir partager les chances et aussi leur permettre en effet de développer l'économie locale de la région.
Et dans le cadre de ce programme, il y a donc eu une vingtaine de jeunes ici de la région de Tombouctou qui ont été sélectionnés pour participer au programme qui démarre à la fin de ce mois de janvier. Quels étaient les critères sélectifs ?
Alors, le premier critère de sélection, c'est que la personne doit appartenir à la région de Timbuktu ou avoir un intérêt à développer une activité économique dans la région afin de pouvoir permettre aux jeunes de ces régions d'avoir accès à des opportunités, par exemple, de création d'emplois ou avoir des entreprises au niveau local qui vont créer de la richesse au niveau local. Oui.
Et quels étaient, par exemple, les profils de ces jeunes, quel type d'entreprise ils veulent actuellement mettre en place ?
Certains d'entre eux veulent se lancer dans l'artisanat, d'autres le tourisme, il y en a également l'agriculture, la pisciculture et il y a aussi la formation.
Des chantiers qui sont porteurs, le programme qui va durer 8 mois, il va être organisé comment ? Comment vous allez aider ces jeunes à mettre en place ces projets ?
Alors en fait, le programme est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le programme académique qui va durer 10 jours. En 10 jours, on va prendre 25 jeunes qu'on va former sur le développement de business pour pouvoir en fait permettre à ces jeunes de savoir quel genre de business ils ont aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se faire de l'argent avec ça. Et ensuite, à la fin des 10 jours de formation, on va les mettre en fait dans la deuxième phase qui est le programme de mentorat. Donc chaque participant aura un mentor qui va en fait leur permettre de pouvoir savoir comment s'orienter du point de vue professionnel ou bien développer leur business. Et la troisième phase, c'est la phase de développement professionnel qui va consister à prendre 15 des 25 participants pour avoir des stages professionnels dans les entreprises.
Qui sont ces mentors ? C'est intéressant cette idée de mentorat.
Alors les mentors, c'est des entrepreneurs, c'est des leaders qui sont ici à Bamako, au Mali et à l'étranger, qui ont décidé en fait d'aider les jeunes, leurs frères maliens ici. Il y en a par exemple Kader Kane qui est au Niger et qui a d'ailleurs accepté en fait de prendre 3 des participants comme stagiaires au Niger à African Development University.
Donc on a bien compris qu'il y a un volet économique et l'idée aussi c'est de consolider la paix au nord du Mali, une région qui est menacée par l'instabilité politique et sécuritaire. Comment ce programme peut-il contribuer à cette consolidation de la paix concrètement ?
Alors, selon notre compréhension des choses, on a vu en fait que les jeunes sont facilement enrôlables dans l'extrémisme violent parce qu'ils n'ont pratiquement rien à faire. Ce sont des bras valides qui n'ont pas d'opportunités économiques. Donc, ils sont très facilement enrôlables s'il y a des propositions qui viennent, par exemple, des extrémistes. Donc, on s'est dit que s'ils ont des opportunités économiques, s'ils ont un emploi, s'ils ont des entreprises, s'ils arrivent à créer des richesses au niveau local, comme ça, ils seront très difficilement, en fait, enrôlables dans l'extrémisme violent.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage pour la mise en place de ce programme. On suivra, bien entendu, l'avancée de cette formation de jeunes entrepreneurs maliens. Je vous remercie également d'avoir accepté notre invitation, Bilali.
C'est un plaisir. Merci, Diara.
Alors, on dit quoi sur RFI ?
Alors, on dit quoi ? C'est aussi une émission qui propose d'améliorer notre quotidien. C'est pourquoi chaque semaine, aux côtés de Joanne, on vous livrera des conseils pratiques. Elle est d'ailleurs à mes côtés. Bonjour Joanne.
Bonjour Diara et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous allez nous livrer le secret pour réussir son année.
Tout à fait Diara. On le sait tous, une nouvelle année est toujours synonyme de nouvelles résolutions. Mais la plupart du temps, les résolutions se retrouvent noyées dans le train-train quotidien et on finit par ne pas les appliquer. Je vous propose aujourd'hui une solution pour éviter tout ça et c'est le Vision Board. On l'appelle aussi tableau de visualisation en français, mais vous conviendrez avec moi que c'est plus stylé en anglais, n'est-ce pas Diara ?
Non.
C'est pas grave, je continue quand même avec mon vision board. Donc c'est un tableau d'inspiration fait de collages, de photos et d'images qui représentent vos aspirations, vos ambitions et vos désirs dans tous les domaines de la vie. Celui qui possède un vision board a plus de chances de réaliser ses objectifs que celui qui n'en a pas.
Mais alors comment est-ce possible et comment surtout se sert-on de ce vision board ?
Alors, c'est possible grâce au pouvoir de la visualisation. Si vous avez une série d'objectifs fixés dans l'année, sachez que vous avez aussi tout un ensemble de circonstances imprévues qui peuvent occuper votre esprit, vous distraire et donc vous écarter de ces objectifs. Une maladie, une phase de déprime, pas d'argent. Le simple fait de visualiser vos objectifs de manière régulière et au quotidien vous permet de les garder en tête. Je vous donne un exemple. Tous les matins, je regarde mon vision board pendant 5 minutes et je m'imagine avoir accompli tout ce qui s'y trouve. Ça me met en condition pour démarrer ma journée avec des ondes positives et de la motivation. Imprimez votre vision board et collez-le dans votre chambre, au bureau, mettez-le sur votre smartphone, votre tablette, il doit être partout. Notre subconscient ne sait pas faire la différence entre la réalité et le rêve. Du coup, toute pensée que vous lui soumettez est valide pour lui. Si vous lui dites que vous serez un chef d'entreprise à la fin de l'année, vous le serez dans votre subconscient et c'est là la première étape. Ensuite, il faut bien sûr accompagner tout ça d'un plan d'action. Donc après la visualisation, planifiez votre journée, votre semaine, votre mois autour de vos objectifs et mettez en place des stratégies pour les accomplir.
Alors à présent, Joanne, expliquez-nous comment on fabrique ce vision board.
En fait, c'est très simple et vous avez deux options. Si vous êtes old school, vous partirez sur la méthode manuelle. Elle consiste à rassembler plusieurs papiers journaux et à découper à l'intérieur des images qui vous inspirent et qui représentent l'objectif que vous vous êtes fixé. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans une carrière d'animateur radio en 2019, découpez la photo d'un micro ou d'un animateur radio que vous aimez bien. Pensez aussi à des mots inspirants qui résumeront votre année. Une fois toutes les photos collectées, faites preuve de créativité et assemblez-les par thème sur le support de votre choix. Une grande feuille en papier, une fine planche en bois, les possibilités sont infinies. Si vous êtes plutôt connecté, procédez à la même méthode avec des outils comme Instagram, Google Images ou Pinterest à la place des journaux en papier.
Merci Joanne, et moi je vais d'ores et déjà préparer ce tableau de visualisation.
Et je t'y encourage Diarra. Merci.
Merci Joanne. Place à présent à notre première pause musicale avec l'orchestre sénégalais Gonéi, créé en 1997 par une fratrie de 5 garçons. Leurs nombreuses expériences musicales leur ont permis d'acquérir un style singulier défini comme un mélange de sonorités afrobeat et pop sur fond de mbalakh et de messages très engagés, comme nous l'explique Papis, l'un des membres de Gonéi.
À travers cette chanson, Gonéi fait un appel à la jeunesse africaine pour lui dire de ne pas oublier les valeurs que nous ont transmises nos parents et surtout les anciens. En fait, autant les vieux avaient l'habitude d'inviter les jeunes et les enfants du village sous l'arbre pour leur inculquer des valeurs à travers des contes et des proverbes. Gonéi a essayé de matérialiser cette forme d'éducation dans cette chanson en utilisant des proverbes africains et plus particulièrement sénégalais. D'où le nom de Bayo. Bayo qui signifie le daron, mais c'est juste une métaphore, hein. C'est juste une métaphore pour symboliser les anciens. C'est pourquoi, en Afrique, nous disons qu'un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Donc, rapprochons-nous des plus âgés et des plus anciens pour apprendre et tirer de leurs expériences.
Bye. je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message.
Bonsoir Diarra, félicitations pour ton émission On dit quoi sur la radio mondiale du RFI. Je m'appelle Eric Feji, je suis francophone basé à Lagos au Nigeria. Franchement, j'ai entendu parler de ton émission. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup ému. Félicitations, congratulations to you. I'm very glad, I'm very excited, I'm very impressed to hear about your new program on RFI.
Alors, on dit quoi, Diarandiaï? Félicitations, bravo, j'ai kiffé, j'ai adoré. Franchement, ce sont des sujets d'actualité. J'ai adoré aussi sur le mariage. Bravo, bravo encore, j'ai franchement adoré. Et comme on le dit encore chez nous, j'ai kiffé.
Chaque semaine, le répondeur d'Alors on dit quoi vous est ouvert. Aujourd'hui, Aminata et Eric ont eu envie de s'exprimer au sujet du premier numéro de notre émission qui a été diffusé samedi dernier. C'est une véritable joie d'entendre ce type de message. Ça nous motive encore plus et j'en profite pour les remercier et vous remercier vivement. L'engouement autour de cette émission montre bien qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et si vous aussi, vous avez envie de nous contacter, n'hésitez pas, laissez un message sur le répondeur de notre émission au 33 647 740 742. Et justement, l'annonce de l'augmentation brutale des droits d'inscription à l'université pour les étudiants n'appartenant pas à l'Union européenne a suscité de nombreuses réactions et protestations en France. Les Africains représentent près de la moitié des étudiants étrangers sur le territoire français, mais le seront-ils encore demain? C'est une question qui se pose. Car en plus de cette hausse des frais d'inscription à la fac, eh bien les étudiants africains sont parfois confrontés à un quotidien qui n'est pas toujours simple à gérer. Lina est allée à leur rencontre.
Cette semaine, je suis allée à la rencontre d'étudiants étrangers. Ils m'ont raconté leur vie en France, loin de leur famille, mais proche de leurs ambitions. Alors comment se débrouillent-ils pour étudier et subvenir en même temps à leurs besoins? En trouvant par exemple un job étudiant, parfois loin de chez eux. Alseni Baldé est un étudiant guinéen en sciences politiques à Amiens. Il se déplace tous les week-ends à Paris pour travailler en tant que caissier dans un supermarché.
Sélectionnez la carte de fidélité que vous possédez.
Moi, personnellement, je suis obligé de quitter Amiens tous les week-ends pour venir à Paris. Et ça fait 4 ans que je le fais. Les étudiants, généralement, la majorité des étudiants étrangers venant de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique qui sont à Amiens sont obligés de venir sur Paris tous les week-ends pour travailler pour 10 heures ou 15 heures. Et on est payé à 600, 700 euros, généralement. Et ça nous permet que vivre, payer le loyer, payer les frais quotidiens, tout ce qui est nourriture et consorts. Mais ça pose problème.
Quelques centaines d'euros par mois et pas moyen de gagner beaucoup plus, car lorsqu'on est étudiant en France, on n'a pas le droit de travailler plus d'une vingtaine d'heures par semaine.
Je fais 10 heures de travail par jour et les 10 heures ne me permettent même pas de subvenir à mes besoins les plus urgents, c'est-à-dire s'acquitter de mon loyer ou bien subvenir à mes besoins de base, qui est nourriture et consorts, parce que je prends environ 400 euros. Et à la fin, je suis obligé de combler ce vide par un autre travail. Je donne des cours particuliers parfois, ça me permet de combler en tout cas le vide financier qui est là. Je ne suis pas venu en France pour travailler, je suis venu pour étudier. Donc j'aimerais consacrer autant de temps à mes études qu'au petit travail, parce que je suis obligé de travailler. Je ne suis pas issu d'une famille aisée et c'est le cas de la majorité des étudiants qui viennent étudier en France. On n'est pas du tout dans une situation aisée. C'est parfois très difficile de négocier avec l'employeur pour qu'il nous laisse le temps de 2 semaines d'intervalle, c'est-à-dire 2 semaines avant les examens. C'est extrêmement difficile de négocier tout cela, parce que vous êtes obligé de rattraper les heures en amont si vous ne voulez pas être pénalisé financièrement, parce que c'est un facteur aussi important. C'est vrai qu'on a envie de réviser, mais si tu n'as pas de quoi te mettre sous la dent ou de quoi payer ton loyer, ça permet pas une concentration forte.
À ces tracas permanents s'ajoute la mesure prise par le gouvernement d'augmenter les frais d'inscription pour ces étudiants qui ont pour certains un budget déjà très serré. Alseni voit l'opportunité d'étudier en France comme un tremplin pour son avenir. Mais il affirme qu'il lui est quasi impossible de payer les 3 770 euros demandés pour effectuer son doctorat.
Je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine parce que mon projet est complètement mis à plat par cette réforme. Depuis toujours, mon projet professionnel et mon projet personnel consistaient à dire que quand je viens en France, j'aurai une licence, un master, un doctorat. Si je savais en amont que les 3770 euros allaient s'imposer, peut-être que je n'aurais pas choisi la France, peut-être que j'aurais resté à Dakar.
Diane Tano, étudiante ivoirienne arrivée en master de droit à Nanterre, songe elle aussi à rentrer en Côte d'Ivoire, faute de pouvoir payer pour continuer son doctorat. Un projet qu'elle avait pourtant à cœur de réaliser. Arrivée cette année en Île-de-France, l'étudiante dépitée est elle aussi dans l'impasse.
Est-ce que je dois abandonner le rêve de faire un doctorat pour aller enseigner dans mon pays? Parce que je sais ce que c'est le fait de manquer de profs, de ne pas avoir de profs pour vous enseigner. Du coup, je suis obligée de revoir à la baisse mes perspectives, mes aspirations futures.
Pour les étudiants africains, pas évident donc d'étudier en France, de s'adapter à un nouvel environnement, une charge de travail, un job étudiant et une pression financière constante pour certains. Licence, master, doctorat, le rêve universitaire français pourrait à présent s'arrêter aux portes de ses diplômes. Certains, comme Amadou Diallo, étudiant en droit à Paris lui aussi, réfléchiraient donc à deux fois avant de songer à faire tous ces sacrifices.
C'est totalement injuste. Pourquoi je paierais 15 fois plus cher que mon ami camarade français? Pourquoi? Si moi, avant que je ne vienne en France, cette mesure-là avait été d'actualité, était en vigueur, moi je me serais autorisé 10 fois avant de venir en France. Très sincèrement, je pense que je ne serais pas venu en France. Je préfère aller peut-être en Belgique, au Canada, ou dans un autre pays, que de venir dans un pays où je suis traité différemment qu'un étudiant national. Dans une université, encore une fois, le dénominateur commun, c'est la qualité d'étudiant, point barre.
Beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes pour ces étudiants internationaux qui risquent de voir leurs frais de scolarité multipliés par 16 dès la rentrée prochaine. Alseni et Diane n'ont eux pour ambition que de ramener le savoir qu'ils auront acquis au fil de leurs études. Eux aussi veulent transmettre leurs connaissances à leurs compatriotes.
Les Français, parce que nous tous, on veut rester ici. On est à l'aise souvent dans notre pays. C'est pas venir là en France ici, c'est-à-dire arriver à un certain moment, il y a quand même de la souffrance. C'est pas tout le monde. Tu veux juste venir un moment, prendre un peu de savoir et retourner dans ton pays. Donc là, c'est comme s'ils nous ferment les portes et c'est vraiment dommage.
Je ne veux pas retourner en Guinée sans que je sois docteur en sciences politiques et sans que je puisse transmettre les connaissances aux jeunes hommes et femmes qui n'ont pas eu la chance de venir ici. Ça me permettra également de participer à l'amélioration de la vie politique et de la vie socio-économique de mon pays. C'est mon objectif. Mais aujourd'hui, je ne sais pas du tout parce qu'en ayant ce master-là, je ne me vois pas avoir la capacité intellectuelle nécessaire pour instruire les gens à l'université.
On vient d'entendre le reportage de Lina sur les conditions de vie des étudiants étrangers en France. Avec moi en studio pour en parler, je suis en compagnie du porte-parole du collectif des étudiants étrangers en France. Bonjour Modibo.
Bonjour Diarra.
Et nous sommes aussi en ligne avec une psychologue ici à Paris. Bonjour Stella.
Bonjour Diarra.
Alors Modibo, on vient d'entendre ce reportage très intéressant qui nous parle du quotidien des étudiants étrangers en France. Est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ces témoignages?
Oui, enfin, dans tous les témoignages que j'ai écoutés, c'est que je me reconnais dedans parce que c'est à peu près la vie de la majorité des étudiants qui sont obligés de travailler à côté des études, qui sont obligés de faire des petits boulots pour joindre les deux bouts. Et c'est pas évident. Et contrairement à une pensée qui est répandue et qui est ressortie du discours du Premier ministre, c'est pas tous les enfants qui sont là, qui sont des fortunés. Et il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent à côté de leurs études et qui ne s'en sortent pas financièrement.
Vous aussi, vous travaillez?
Oui, moi aussi, je travaille à côté de mes études.
Vous faites quoi comme métier?
Je suis livreur.
Et combien vous gagnez par mois?
J'ai un contrat de 20 heures par semaine et je touche à peu près 600-650 euros par mois.
Et c'est suffisant pour vivre?
En tout cas, c'est aussi, je ne peux pas aller plus. Et mon objectif, c'est aussi de faire les études. Donc moi, ce que je fais, c'est gagner un peu de sous pour pouvoir étudier à côté. Donc en même temps, les étudiants, de toute façon, ils ne peuvent pas faire plus de 20 heures par semaine. Donc on est limité aussi en termes de travail, quoi.
Alors avant de poursuivre cette discussion autour du travail, notamment qu'on allie avec les études, on a peut-être la réaction de Stella qui est en ligne avec nous. Stella, vous qui êtes psychologue, est-ce que vous recevez des étudiants étrangers qui viennent vous voir et vous demander conseil peut-être sur l'adaptation, l'organisation de leur vie et les conditions de vie peut-être difficiles ?
Oui, je reçois des jeunes personnes qui sont dans leur parcours étudiant et qui poursuivent un peu, comme l'a bien dit les personnes, comme l'ont bien dit les personnes dans le reportage, ce rêve français, licence, master, doctorat, et qui semblent être comme en mission. Ils ont une mission, ils sont venus pour quelque chose et ils doivent repartir avec quelque chose quand ils veulent repartir. Et ce que je retrouve entre ces personnes et les personnes du reportage, c'est cette souffrance, ce sentiment d'injustice, et qui se traduit après par une colère de pourquoi je suis comme tout le monde et pourtant j'ai pas les mêmes chances.
Ce qui est aussi intéressant peut-être à voir, c'est cet aspect de changement de culture. On quitte son pays, on est loin de sa famille surtout. Ça a un impact psychologique.
Alors déjà, il y a toute une phase à laquelle les étudiants à l'étranger ne sont pas du tout préparés. C'est-à-dire qu'arrivé ici, il y a toute une question, et de climat d'abord, tout simplement, d'environnement visuel, je veux dire, d'architecture, de personnes, de couleurs de personnes aussi. Et moi, c'est ce dont elles me parlent beaucoup. Elles me disent, ben, moi, je me rends compte, en fait, aujourd'hui, que je suis noire, par exemple. C'est ici qu'elles se rendent compte, arrivées, dans cette université, dans cette amphi, qu'elles sont noires et qu'elles ne bénéficient pas du même traitement que tout le monde. Et c'est là aussi que la colère est exacerbée et que, oui, ça provoque de vraies souffrances chez ces personnes.
Est-ce qu'il existe des moyens de se préparer peut-être psychologiquement à cette transition ? Vous donnez peut-être des conseils là-dessus ?
Alors, je pense que le plus gros travail à faire, c'est le travail sur les exigences surélevées, qui ne sont pas forcément toujours les nôtres, hein, qui sont des exigences qui commencent dans les pays de départ, qui sont celles de nos parents, de nos grands-parents, et ensuite, du coup, qui deviennent les nôtres, et qui font des étudiants étrangers, des guerriers en mission, des agents en mission pour décrocher cette licence, master, doctorat. Je pense que le gros du travail, c'est d'avoir des exigences réalistes. De se dire, moi j'ai le droit à l'échec aussi, j'ai le droit à arriver et à pas forcément aimer ce que je vois. J'ai le droit à rentrer chez moi, pas avec licence, master, doctorat. J'ai le droit à vivre pour moi, parce que ce qu'on n'a pas dit et ce qui n'est pas dit dans ce reportage, c'est que des fois ces étudiants doivent joindre les deux bouts, parfois avec une aide des parents, donc ça veut dire qu'ils ont une pression parce que certains parents envoie un peu d'argent sur des fois des salaires, par exemple en France CFA, ou parfois c'est eux qui envoient de l'argent chez eux pour aider. Donc ils ont une triple exigence.
Modibo, je vous ai vu réagir. Vous êtes d'accord avec cette histoire de mission peut-être, mais pas forcément avec ce droit à l'échec.
Justement, je pense qu'on n'a pas ce droit à l'échec. Parce qu'un étudiant étranger qui redouble deux ou trois fois, quand il va renouveler son titre de séjour, il sera contraint de justifier la progression dans ses études, donc d'amener les notes. Et un étudiant qui redouble deux ou trois fois est susceptible d'être renvoyé chez lui. Donc on a une obligation de réussite sans pour autant avoir les conditions nécessaires qui nous permettent justement de réussir. Et c'est ce qui est un peu contradictoire.
Et quand Stella parlait de pression sociale, de pression, est-ce que vous la ressentez ?
Cette pression, elle existe. Et on n'était pas prêt en Afrique déjà, parce que quand on était en Afrique, on voyait la France à travers la télé, à travers les médias. Et quand on vient, on se rend compte qu'en fait, c'était pas la vraie réalité, qu'il y a des difficultés qu'il faut affronter au quotidien, à l'école, dans la vraie vie, à la maison, au boulot. Et c'est des contraintes qui ralentissent en tout cas la réussite des étudiants étrangers.
Parmi ces contraintes, il y a aussi l'avant-voyage. On parlait tout à l'heure de votre venue. Vous êtes ici depuis 2013 en France. Vous avez eu votre bac et vous êtes venu vous installer en France. En préparant l'émission, j'ai appris beaucoup de choses avant même de pouvoir prétendre venir étudier ici. Il faut s'acquitter de pas mal de frais, ou notamment au dossier de Campus France, c'est ça ? Donc il y a des frais pour un timbre fiscal, il y a aussi des tests de français,
bien sûr. Bien sûr. En fait, pour venir étudier ici en France, il faut passer par Campus France qui s'occupe des démarches administratives. Et Campus France exige que les parents aient dans leur compte au moins 7000 euros. Alors 7000 euros, pourquoi ? C'est le montant qui a été fixé pour une année universitaire. Et ce montant, on peut le diviser par mois, c'est à peu près 650 euros. C'est les frais pour un étudiant. Si on compte tout ce qu'il doit apporter en termes de nourriture, en termes de logement, en termes de...
Ça fait à peu près 5 millions de Français. Enfin,
voilà.
C'est beaucoup.
Donc, c'est déjà, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir cet argent. Et en même temps, les montants exigés par Campus France, si la réforme vient à voir le jour, ça va atteindre les 10 000 euros pour un seul étudiant. Et ça, c'est très...
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Et vous abordez justement la question qui va suivre, c'est-à-dire l'annonce de cette augmentation brutale des frais d'inscription à l'université pour les étudiants qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Et ça a suscité beaucoup, beaucoup de protestations et de critiques. On va justement faire le point sur cette hausse avec notre correspondante Lina. On l'écoute.
La France accueille aujourd'hui 10% d'étudiants étrangers. Corinne Ekman est analyste dans le département éducation de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Pour elle, cette annonce, c'est d'abord une manière de s'aligner sur les autres pays d'accueil pour les étudiants qui pratiquent eux aussi des tarifs différentiels pour les étrangers.
Il faut savoir que c'est quelque chose qui est propre à la France, hein, ça existe dans beaucoup de pays. Si vous regardez les pays comme les États-Unis, c'est 8 000 $ pour un étudiant national et ça va être 16 000 $ pour un étudiant étranger. Ça sera la même chose pour le Canada, pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie. On multiplie par 2 ou par 3 entre les étudiants nationaux et internationaux. Donc c'est quelque chose qui est mise en place par les pays, la Finlande souhaite aussi le faire, pour justement augmenter les financements des universités. Aujourd'hui en France, on sait que les frais d'inscription sont plutôt faibles.
Un moyen donc d'augmenter les financements de l'enseignement supérieur, aujourd'hui trop faible pour rester attractif. Constance Le Grip, députée LR à l'Assemblée nationale et vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, voit plutôt cette mesure d'un œil favorable.
Ce qui nous importe, c'est de travailler à restaurer pleinement l'excellence des universités françaises qui sont pour beaucoup d'entre elles d'excellents niveaux, mais qui par ailleurs souffrent d'un manque de moyens et connaissent, je n'ai pas peur du mot, pour beaucoup d'entre elles, une certaine paupérisation. Et donc, l'objectif, ça doit être de leur donner des moyens budgétaires nouveaux.
La décision, si elle prend effet, s'appliquera dès la rentrée prochaine. Même si le nombre de bourses allouées est prévu d'être multiplié par 3, pas sûr que les 300 000 étudiants déjà présents sur le territoire puissent tous en profiter.
Alors, Modibo, je vous ai vu prendre beaucoup de notes, secouer la tête. Comment vous avez réagi, vous, face à cette nouvelle qui parle d'une augmentation de plus de 1600% des frais universitaires en France?
Alors, les frais d'inscription ont été multipliés par 16. Et on l'apprend en novembre. Et on doit être prêt pour financer nos études dans 10 mois. Et les étudiants étrangers perçoivent, quand je dis les étudiants étrangers, c'est quand on a fait nos assemblées générales à Nanterre Université, les étudiants étrangers perçoivent cette mesure comme une injustice, comme une discrimination, mais aussi comme une volonté affichée par le gouvernement français de mettre fin à l'arrivée massive des étudiants originaires de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb.
Le Premier ministre, lui, parle d'injustice fiscale vis-à-vis justement des étudiants
justement,
fortunés.
La vraie injustice n'est pas liée à l'origine de l'étudiant, mais la vraie injustice est liée au traitement différencié des étudiants entre eux. Et à l'université, on forme une seule communauté. Il n'y a pas une communauté réservée aux étudiants étrangers, une autre communauté réservée aux étudiants non étrangers. Mmh. Et c'est pourquoi cette mesure, elle est inégalitaire. Parce qu'elle cible une catégorie de personnes, et notamment ceux qui viennent de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, parce qu'ils sont majoritaires.
Parmi aussi cette question de réforme, la France veut offrir la possibilité aux étudiants africains notamment, de suivre des formations françaises sans quitter leur pays. On a par exemple l'exemple du campus franco-sénégalais ou d'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée qui vont être mises en place. Est-ce que ça pourrait être une solution ?
C'est une perspective envisageable, mais ce qui serait aussi intéressant, c'est que les États africains mettent en place un système d'harmonisation de l'enseignement supérieur au niveau
local, sur le continent directement.
Sur le continent.
Donc pour améliorer la qualité des études en Afrique.
Parce qu'aujourd'hui, les étudiants européens peuvent voyager partout en Europe, ils peuvent aller dans n'importe quel pays en Europe en suivant le même cursus, alors qu'en Afrique, nous, on n'a pas la possibilité parce que nos États, jusqu'à ce jour, n'ont pas mis en place ces systèmes d'harmonisation de l'enseignement supérieur. Mm-hmm. Donc, au lieu de faire des partenariats peut-être avec la France, ça peut servir, je dis pas le contraire, mais je dis qu'il faut vraiment, il y a l'urgence de réformer nos systèmes éducatifs et de mettre en place des universités de bonne qualité pour que ceux qui sont en Afrique ils puissent étudier dans les bonnes conditions, avoir des diplômes.
Et vous êtes organisé à cette réforme, vous avez créé un collectif d'étudiants étrangers, alors comment vous vous organisez pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec cette mesure ?
Ce collectif que nous avons créé, ça part de la mobilisation qui s'est faite à Nanterre Université. Mmh. Il y a des étudiants étrangers qui sont concernés par la mesure, donc tout naturellement qui se sont mobilisés, mais il y a aussi des étudiants français qui nous ont rejoints dans ce mouvement parce que en guise de solidarité, mais aussi parce que ils estiment que nous sommes leurs camarades, ils connaissent bien
elle
nos conditions
de vie.
Oui, elle est
aussi
injuste. Donc c'est pourquoi ils nous rejoignent. Et ce collectif a pour objectif principal de lutter contre cette augmentation à travers notamment l'argumentaire. On n'est pas en position d'installer un rapport de force théorique sur le terrain avec le gouvernement, mm-hmm. mais à travers l'argumentaire, expliquer en quoi cette mesure elle est injuste, en quoi elle est inégalitaire et en quoi elle est discriminatoire.
Est-ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des pétitions, des manifestations, des tribunes, on a une tribune d'artistes et de personnalités françaises qui ont publié quelque chose à ce sujet et qui sont contre cette réforme?
Oui, effectivement, il y a une tribune et les personnalités qui ont manifesté à travers cette tribune leur soutien envers les étudiants étrangers, mais aussi il y a les présidents d'universités
qui j'ai vu que l'université de Clermont Auvergne n'appliquerait pas cette hausse des frais. Est-ce que ce sera le cas aussi pour Nanterre ?
Effectivement, il y a certaines universités qui ont déclaré qu'ils vont pas l'appliquer, mm-hmm. parce qu'il y a quand même le principe d'autonomie. Enfin, les universités sont assez flexibles et libres dans le choix.
Donc, vous n'allez pas baisser les bras jusqu'à la rentrée septembre 2019.
Non. On estime que la mesure, elle est injuste. Donc, on se bat pour que cette mesure ne voie jamais le jour.
Stella, peut-être une dernière réaction autour de cette thématique.
Je pense que c'est complètement injuste et il faut donner de la force et des moyens à toutes ces associations qui luttent contre ces discriminations.
Merci à vous Stella, je rappelle que vous êtes psychologue ici à Paris. Merci également à Modibo qui, je le rappelle, est le porte-parole du collectif des étudiants étrangers en France. Bon courage à vous et sachez qu'on vous suivra tout au long de cette mobilisation. Et cette polémique a beaucoup fait réagir sur notre page Facebook. On a par exemple Hassan, étudiant ivoirien en Master 2 de droit à l'Université de La Rochelle, qui nous dit « 4 étudiants étrangers sur le territoire français est un long parcours du combattant ». On est confronté à un stress général entre le volet professionnel, administratif, financier et même social. Ne pas décevoir nos proches reste le leitmotiv. On a aussi Oumar Sidibé qui est en Guinée-Conakry qui nous a partagé ses inquiétudes face à la hausse des frais d'inscription à l'université. Il nous dit tout simplement que lui et tous ses amis souhaitent dorénavant aller poursuivre leurs études supérieures en Chine, en Allemagne, en Russie, en Ukraine et même en Belgique, mais plus en France. Alors on le voit, le débat n'est pas clos et ce n'est pas le seul sujet d'ailleurs.
No!
C'était Moana Poto de Tiégué, nouvelle figure de l'afropunk.
Zing! Oh, y'en a marre! Coup de gueule! Le coup de gueule!
Au Mali, c'est une grève de la faim des cheminots qui a interpellé Dou Niangadou. Il nous a partagé sa vidéo coup de gueule que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur notre page Facebook. Alors, on dit quoi?
Bonsoir à tous les internautes d'RFI à travers le monde. Mon nom c'est Dou Niangadou, je fais ce coup de gueule depuis mon pays, le Mali, par rapport à une situation qui me touche et que je ne saurais passer sous silence. Cette situation c'est laquelle? C'est tout simplement la grève des cheminots et cela depuis plusieurs mois. Les cheminots maliens sont partis en grève pour réclamer 9 mois d'arriéré de salaire avec le gouvernement. Face à l'inertie du gouvernement, ils ont décidé depuis quelques semaines d'entamer aussi une grève de la faim afin que leurs revendications soient réellement prises en compte. Force est de constater que malgré cette grève de la faim, à ce jour, aucune négociation n'a été entreprise de la part du gouvernement pour ces cheminots-là. Ce sont les chefs de famille qui ne font que réclamer leurs droits. Dans un pays où la situation économique est totalement difficile, comme c'est le cas au Mali actuellement, je pense que cette situation ne peut tout simplement pas continuer. C'est inadmissible, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour interpeller qui le droit, pour porter le message au plus haut point, afin que la situation de ces cheminots et de manière plus générale la situation du transport ferroviaire au Mali soit réglée de manière définitive. Parce que c'est ça le cœur du problème. Donc j'espère que mon message trouvera écho auprès des décideurs qui feront le nécessaire pour sortir ces chefs de famille dans la rue. Ça ne peut pas continuer.
Et si vous aussi, vous en avez marre qu'on ne vous laisse pas assez vous exprimer et exposer vos revendications, souffrances ou injustices, partagez avec nous vos convictions en nous envoyant vos coups de gueule. Un coup de gueule en vidéo que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp au 33 647 740 742.
Rendez-vous sur notre page Facebook, alors on dit quoi?
Et tous les samedis, alors on dit quoi? Décrypte des fake news ou fausses nouvelles en français. On vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme EGICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africa Check où des confrères journalistes s'emparent d'une information relayée et la vérifient pour déterminer si l'information est vraie, fausse ou partiellement vraie. Et je suis et je serai en compagnie du journaliste Valdez chaque semaine pour vous parler d'une fake news. Bonjour Valdez.
Bonjour Diarra.
Vous évoquez dans cette première chronique une rumeur selon laquelle consommer de l'eau chaude permet de guérir plusieurs maladies.
Oui Diarra, alors il s'agit d'un message qui a largement circulé au Sénégal sur WhatsApp. Le message en question prétend que l'eau chaude est efficace à 100% pour guérir plusieurs maladies, avec des cures étalées sur des périodes allant de 3 jours à 9 mois.
Alors avant de nous dire pourquoi c'est une fausse information, peut-on savoir davantage sur le contenu de ce message?
D'abord, le message est signé par un certain docteur D. Mensa Azare. En résumé, il est recommandé dans ce message de boire le matin au réveil environ 2 verres d'eau tiède lorsque l'estomac est vide et de ne pas manger 45 minutes après avoir pris cette eau. Il est aussi indiqué que la thérapie de l'eau chaude permettra de résoudre les problèmes de santé dans un délai raisonnable. Un article au contenu presque identique à ce message intitulé « Les avantages de l'eau chaude » a été publié le 17 octobre 2016 par le site sénégalais leural.net sans mention de docteur D. Mensa Azare. Des textes similaires sur des supposées vertus curatives de l'eau chaude sont nombreux sur Internet sans preuve scientifique. C'est le cas du site francophone Santé Plus Magazine où l'on peut lire notamment « Cette thérapie japonaise à base d'eau permet de nettoyer l'organisme et guérir des maladies ».
Mais alors, comment vous êtes parvenu à démonter cette information?
Alors, depuis mi-octobre 2018, nous avons écrit dans un premier temps à leural.net et Santé Plus Magazine pour leur demander de nous mettre en rapport avec les auteurs de leurs articles. Nos messages sont restés sans suite jusqu'à ce jour. Et un mois avant cela, à la mi-septembre 2018 donc, nos recherches pour entrer en contact avec la personne identifiée comme docteur D.Mensah-Azare n'ont permis d'aboutir ni à un médecin, ni à une personne physique, ni encore à un compte sur un réseau social quelconque. Dans la recherche en ligne, ce nom est cependant associé par certains moteurs de recherche à une arnaque ou une escroquerie, comme en juillet 2018 sur le blog spamwax.blogspot.com qui recense les derniers scams et hoax. Mais nous avons poursuivi nos recherches en sollicitant le médecin sénégalais Abdoulaye Ley, qui est professeur à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Abdoulaye Ley nous a indiqué qu'avant de dire que tel produit est bénéfique ou est néfaste, il faudrait qu'il y ait une étude scientifique sur des individus qui souffrent ou non, ce qui est fondé sur des preuves ou des données probantes.
Valdez, vous me disiez avant cette émission qu'à Afrika Tchèque, vous n'êtes pas les seuls à avoir démonté ces rumeurs sur de prétendues vertus ou effets néfastes de l'eau.
Oui, Diara, car en interrogeant les moteurs de recherche, on peut se rendre compte que des annonces sur les prétendus pouvoirs de l'eau ou ses supposés effets néfastes ont été démystifié depuis des années et continue d'ailleurs de l'être. Il existe des sites spécialement conçus pour aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet ou les sources qui les véhiculent. L'un d'eux, c'est le Décodex, créé par le journal français Le Monde, qui a fait des recherches sur Santé Plus Magazine. Et dans un article publié le 25 mai 2018, Décodex indique que ce média, donc en parlant de Santé Plus Magazine, donc ce média se caractérise par une pratique de la malinformation en matière de santé.
Valdez, avez-vous pu tirer quelques conseils du professeur Abdoulaye Ley quant à ces nombreuses rumeurs sur les aliments et autres recettes miracles ?
Oui, Diara, nous avons pu tirer quelques conseils du professeur Abdoulaye Ley. Et parmi ces conseils, il nous fait comprendre que les malades ou leurs proches ne devraient pas interrompre leur traitement pour le remplacer uniquement par de l'eau ou un aliment quelconque réputé miraculeux, parce que l'eau ou cet aliment n'est pas un médicament, a donc insisté le professeur Ley. Mais une chose est cependant sûre, a encore dit le professeur Abdoulaye Ley, qu'elle soit chaude ou froide, on ne peut pas se passer de l'eau, on en a besoin pour la vie.
Merci pour tous ces conseils, Valdez, et à la semaine prochaine.
Merci, Diara.
Le temps passe très vite, alors on dit quoi ? C'est déjà terminé. Donc vous l'avez compris, concrètement, ce que j'attends de vous chaque semaine, c'est que l'on interagisse ensemble. Envoyez-nous vos initiatives, partagez vos découvertes musicales, dites-nous aussi sur quoi vous avez envie de débattre et quel est votre coup de gueule. N'oubliez pas de me laisser un message sur le répondeur de notre émission au 0647 740 742 ou au 33 647 740 742. Depuis l'étranger. Et sachez que la semaine prochaine avec Johan, nous vous donnerons des conseils pratiques. On verra alors les béabas pour bien pitcher son projet. Nous allons aussi revenir sur une des fake news qui a circulé sur les réseaux sociaux avec Valdez et nous parlerons d'environnement et de recyclage au Mali. Merci à toute l'équipe de l'émission, Astou, Beverly, Louise et Guillaume. On se retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence sur RFI. C'est avec vous que j'ai envie d'échanger, alors venez causer avec moi, on a des choses à se dire. Salut, Rangongol, à bientôt.